Je terminerai cette présentation par les deux épisodes de la série dédiée au personnage de M. Procook. Le premier, un fer à cheval porte-bonheur, a été créé juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans des conditions matérielles difficiles. Le studio de Zlin était alors dans une mauvaise passe. On parlait même d'une éventuelle fermeture. Karel Zeman a tout fait pour continuer à travailler dans ce studio auquel il était très attaché. C'est une commande faite par le gouvernement d'après-guerre qui va lui permettre de s'atteler à ce nouveau projet. L'idée était de faire un court-métrage qui incite la population tchèque à collecter et à recycler des matériaux. Karel Zeman réalise seul le premier épisode de Monsieur Procook dans une grande pénurie de main-d'œuvre, de pellicules et aussi de sources lumineuses. Alors, qui est ce Monsieur Procook? Une marionnette en bois représentant un homme d'âge moyen avec une belle moustache et de grands yeux vifs et curieux. Il porte aussi un canotier sur sa tête et des sous-vêtements à rayures. Que lui arrive-t-il lors de ce premier épisode? En marchant dans la forêt, il tombe sur un fer à cheval abandonné. Il pense que c'est un bon présage, que la chance va lui sourire grâce à ce porte-bonheur. Il le ramasse, bien décidé à l'accrocher à la porte de sa maison. Mais rien ne se passe comme prévu. Le fer à cheval ne lui apporte que des ennuis. La lecture d'une annonce dans le journal incitant à la récupération de vieux matériaux lui fait prendre conscience d'un autre usage possible du fer à cheval. Il décide de l'apporter au centre de collecte et d'aider ainsi l'industrie de son pays. À la fin du film, les différents produits fabriqués à partir de matières recyclées sont présentés en prise de vue continue. Les images sont proches du mouvement de la nouvelle objectivité. L'idée est de former de nouveaux citoyens avec de nouvelles images. Un fer à cheval porte-bonheur est clairement un film de propagande. Il vise à éduquer, voire à rééduquer le peuple. La structure du scénario est simple. Face à une situation, M. Procook n'agit pas de la bonne façon. Il fait une succession d'erreurs. À la fin, il se rend compte qu'il doit agir différemment. Ce film, présenté au cinéma en première partie d'un long métrage, rencontre un énorme succès auprès du public. M. Procook, censé représenter le citoyen tchèque, est aussi un personnage burlesque, excentrique et maladroit. On l'a comparé plus tard au personnage de Charlot, de Malek ou bien encore de M. Hulot. Devant ce succès, le studio de Zlin décide de mettre en chantier d'autres épisodes avec M. Procook comme protagoniste. Karel Zeman en réalise 6 entre 1946 et 1955. Lorsqu'il annonce son intention d'arrêter la série, voulant se consacrer à ses longs métrages, le public et les journaux réagissent vivement contre cette décision. Karel Zeman choisit alors de continuer la série. Il écrit le scénario de deux nouveaux épisodes et en confie la réalisation à l'un de ses collaborateurs, Zdeněk Rozkopal. Cette solution, outre la satisfaction des spectateurs, a l'avantage de donner du travail à son équipe qui était inoccupée lors de la préparation de ses longs métrages. Monsieur Procook Horloger a été quant à lui réalisé par Eugène Spalleny, gendre et assistant de Karel Zeman. Sorti en 1972, 26 années le séparent d'un fer à cheval porte-bonheur. Le contexte de sa création est tout autre. La Tchécoslovaquie a subi le contre-coup de l'écrasement du printemps de Prague. Et bien que Karel Zeman n'a jamais été considéré comme un opposant au régime, les années 1970 sont très difficiles pour tous les créateurs. Karel Zeman n'a plus les mêmes moyens pour travailler. Il tourne essentiellement des films en 2D, dessins animés et papier découpé. Quelles sont les grandes lignes de ce nouveau scénario, toujours écrit par Karel Zeman? Monsieur Procook est horloger. Il a un métier qui ne le satisfait pas. Il néglige son travail. Face au mécontentement de ses clients, il dépose une pancarte annonçant sur la porte de son atelier qu'il revient tout de suite et s'enfuit dans la forêt. Sa rencontre avec des animaux va modifier sa conception du travail. Monsieur Procouc revient à sa boutique en travailleur zélé. Un aspect intéressant de ce dernier épisode est que Monsieur Procouc n'est plus représenté par une marionnette en bois, comme dans tous les précédents épisodes. Il est maintenant fait de papier. D'une marionnette en volume, il est devenu une marionnette à plat, en 2D. Ce changement ne pose pas de réels problèmes. Le personnage est très stylisé. On le reconnaît facilement sous sa nouvelle apparence. Au-delà d'un scénario qui reprend la structure des précédents épisodes, c'est une fois de plus l'inventivité technique qui retient notre attention. Comment notamment figurer le volume dans un monde majoritairement à plat? De plus, Eugène Spalleni et Karel Zeman jouent, à l'instar d'un Tex Avery, sur le méta-cinéma, rappelant aux spectateurs que ce qu'ils voient n'est pas la réalité. Les trous dans la feuille pour passer d'un espace à l'autre, la fermeture éclair de l'arbre, en sont de bons exemples. Pour finir, écoutons ce que disait Karel Zeman de son personnage dans un livre publié en 1986 à Prague. Je crois qu'il y a une grande différence entre sermonner quelqu'un pendant 5 minutes ou pendant 1 heure et demie. Surtout si vous lui demandez en plus de payer une entrée pour ça. Il faut voir aussi qui vous sonne les cloches. Le vieil Ésope savait bien pourquoi, dans ses fables moralistes, il mettait en scène des animaux et non des hommes. Vous aussi, vous serez sans doute enclin à accepter sans sourciller ni protester un rigolo de petit mariole en bois qui est lui-même bien loin d'être parfait, même s'il devait faire campagne pour du travail bénévole, exhorter contre l'alcoolisme ou inciter au tri des déchets. Et enfin, et ce n'est pas anodin, M. Procouc est muet, il ne prêche pas, il agit. Et il laisse au spectateur le soin de réfléchir et de tirer de ce qu'il vient de le faire rire ses propres conclusions, s'il en est capable. Quoi qu'il en soit, le dialogue avec l'auteur est noué. On dit que quiconque rit ne peut en même temps se fâcher, peut-être. Dans les soi-disant comédies de propagande de l'époque, il devait y avoir fort peu à rire. Du coup, les gens se fâchaient. Fin de la citation et fin de cette présentation.